RJB Info.
L'heure du journal avec Natacha Mengoli.
C'était une personnalité qui a marqué la vie politique à Bienne et même au-delà. Marc-Frédéric Souter est décédé la semaine dernière d'une grave maladie à l'âge de 64 ans. L'ancien conseiller national bernois PLR avait été le premier élu à siéger au Parlement fédéral en chaise roulante. Hommage dans un instant. La Suisse n'échappe pas à la problématique de la traite des êtres humains. 250 victimes sont recensées chaque année dans notre pays. Différentes organisations lancent aujourd'hui un bus qui sillonnera nos routes pour sensibiliser la population à cette problématique. Le FC Bâle ne doit pas se rater en Ligue des champions de football. Les Rennes ont défié le CSKA à Moscou ce soir pour le compte de la troisième journée de la phase de groupe. En Russie, le FCB tentera de confirmer sa victoire obtenue contre le Benfica il y a 3 semaines. Du soleil et encore du soleil. L'anticyclone qui plane sur nos têtes nous offre une nouvelle journée radieuse, maximum 20 degrés en plaine comme dans les vallons. L'une des figures les plus marquantes de la politique biennoise s'est éteinte. Marc-Frédéric Souter est décédé la semaine passée des suites d'une maladie à l'âge de 64 ans. Conseiller national de 1991 à 2003, puis en 2007, l'avocat et notaire biennois avait été le premier élu en chaise roulante à intégrer le Parlement fédéral. Il s'était engagé pour l'égalité des personnes handicapées et a notamment été vice-président de la Fondation Suisse pour paraplégiques. Marc-Frédéric Souter a évolué sous les couleurs du Parti libéral radical. Le président du PLR bernois lui rend hommage, Pierre-Yves Grivel.
Il a laissé des traces très importantes par rapport à un domaine qui le concernait au premier plan. C'est grâce à lui que la problématique des personnes handicapées a été mieux perçue par quelqu'un qui justement l'était lui-même. Et il s'est énormément engagé pour cette cause-là.
Est-ce qu'on peut parler d'un précurseur?
Oui, on peut parler d'un précurseur dans ce domaine-là, c'est vrai. Après, il a aussi des prises de position très claires par rapport à la collaboration avec l'Europe. C'est quelqu'un qui défendait les paysages, c'est quelqu'un qui était vraiment très engagé aussi au niveau social. Il s'intéressait aussi à toute la problématique des énergies. Donc un personnage qui a touché vraiment beaucoup de domaines et qui faisait justement la richesse de ce politicien.
Vous le connaissiez aussi sur le plan personnel. Quel genre de personne est-ce que c'était ?
Je garde l'image d'un camarade politique engagé, ok, mais apprécié, et puis avec un caractère très prononcé. C'était un homme de cœur, c'était quelqu'un de très attachant. Il avait un charisme, il avait un sourire, il avait une présence, ça pouvait pas vous laisser indifférent. Et moi, je l'ai côtoyé justement dans le cadre de son handicap, quand je le voyais avec son vélo faire le tour du lac, ou quand je le voyais faire du ski de fond avec son appareil spécial dans les franches montagnes. Je garderai de cet ami vraiment ces visages-là.
Des propos recueillis par Martha Duarte. Une cérémonie d'adieu aura lieu mardi prochain à 13h30 au Temple allemand à Bienne. C'est un sujet de discorde par excellence, le budget biennois. Il y a 2 ans, les débats sur le budget 2016 avaient été houleux. Depuis, la situation s'est quelque peu améliorée. Le budget 2018 sera discuté ce soir par le Conseil de ville. Il s'inscrit dans la continuité des versions 2016 et 2017. Anastasia Lirti.
Le budget 2018 présente une quotité d'impôts inchangée à 1,63 et un résultat équilibré. Pas de perte, mais pas de bénéfice non plus. Il prévoit par ailleurs des investissements de l'ordre de 40 millions de francs, dont la moitié est destinée à la création de locaux scolaires requis d'urgence. Certaines voix ont déjà apporté leur soutien au projet de budget du conseil municipal. C'est le cas par exemple du comité Bienne pour tous et de l'Union syndicale de Bienne Lisse Célin. Ils estiment que le budget préserve des prestations importantes pour Bienne et sa population, des mesures pour lesquelles ils s'étaient battus lors du plan d'économie pour le budget 2016. Reste à savoir si les 60 conseillers de ville seront du même avis. Si le budget est accepté ce soir par le conseil de ville, la population devra se prononcer en votation le 3 décembre.
Le musée d'art le plus visité de Suisse souffle ce jour ses 20 bougies. La Fondation Beyeler en profite pour inaugurer sa 3e exposition de la collection de l'année, celle de Paul Klee. Elle s'intéresse à un univers presque inexploré de l'artiste suisse, l'abstraction. C'est à voir jusqu'en janvier. Située à Rionne, dans la banlieue baloise, et visitée par bon nombre de classes d'école de la région, la Fondation Beyeler constitue un lieu unique en son genre en Suisse. L'historien de l'art jurassien Niklaus Manuel Gudel explique ce qui fait sa force.
Le grand intérêt de cet établissement,
c'est les expositions qu'il propose, qui sont des expositions blockbusters, comme on dit, des expositions vraiment importantes de peintres majeurs et qu'on n'a pas l'occasion de voir, je dirais presque en Suisse, habituellement.
Qu'est-ce que ce musée finalement apporte aux relations culturelles entre le Jura et Bâle ?
Je pense que c'est une offre culturelle complémentaire à celle qu'on peut avoir dans le canton du Jura. Et je pense que cette offre est très importante parce que, justement, c'est un musée qui apporte des expositions extrêmement importantes. On se souvient, il n'y a pas très longtemps, de l'exposition Paul Gauguin. On se souvient de l'exposition Gustave Courbet. On se souvient de l'exposition Claude Monet de cette année, qui sont des expositions absolument énormes, très compliquées à réaliser, extrêmement coûteuses, et que les musées publics, aujourd'hui, ne peuvent pas toujours assumer. Et c'est vrai que comme institution privée, la Fondation Bayeler a aujourd'hui un succès formidable et qu'elle a les moyens aussi de mettre en place des expositions de ce niveau-là, plusieurs même par année.
Niklaus Manuel Gudel répondait à Cyprien Lovy. On pratique aussi la traite des êtres humains dans l'agriculture et l'hôtellerie. Différentes organisations lancent aujourd'hui un bus à travers tout le pays pour rappeler que la Suisse n'échappe pas au phénomène et que des migrants, femmes, enfants, hommes y sont exploités. On recense chaque année 250 victimes de la traite des êtres humains, le plus souvent forcés à se prostituer ou à mendier, mais pas seulement. Et ce n'est là que la pointe de l'iceberg. Émilie Balestra, responsable de la problématique au sein de l'Organisation internationale pour la migration, un organisme de l'ONU.
La modalité de la traite des êtres humains en Suisse, ce n'est pas tout le temps l'image claire de l'esclavage qu'on aurait sur le plan historique. C'est des fois des moyens de contrainte qui sont plus discrets, disons, des pressions par des dettes, des menaces, mais ce n'est pas forcément de la violence physique ou quelque chose comme ça. Ce qui est important pour que les traites des êtres humains, c'est toujours qu'il y ait eu un recrutement, un transport, un hébergement dans le but d'une exploitation, et c'est de la traite des êtres humains au sens moderne du terme.
La lutte contre la traite des êtres humains nécessite un engagement en Suisse, mais pas seulement. Pierre Rossilonghi, chef de mission à l'Organisation internationale pour la migration.
Parfois, c'est en route que la personne passe d'être un migrant irrégulier qui a payé pour passer des frontières à quelqu'un qui revient dans le domaine de la traite parce que tout d'un coup, ces passeurs le revend entre guillemets à des passeurs ici en Europe qui effectivement les met dans des situations de traite. Donc oui, la migration irrégulière est certainement liée à la traite des êtres humains et c'est un travail conjoint qu'il faut faire pour lutter contre la migration irrégulière et donc contre la traite.
Selon les Nations Unies, plus de 70% des migrants arrivant en Europe par la Méditerranée l'an passé ont été victimes de traite des êtres humains. Les Suisses se prononceront sur la redevance radio-TV le 4 mars prochain. Le peuple devra aussi se prononcer sur la prolongation de la perception d'impôt. La décision a été prise aujourd'hui par le Conseil fédéral. Le Parlement appelle à rejeter l'initiative Nobilag. Il a également renoncé à lui opposer une alternative. Environ 60 milliards de francs, c'est le montant estimé de la facture du Brexit selon le président du Parlement européen, Antonio Tajani. Il confirmait ainsi pour la première fois les estimations officieuses données par Bruxelles. Il faut mettre la question de la facture sur la table. Nous voulons récupérer notre argent exactement comme le disait Madame Thatcher il y a 30 ou 40 ans, a-t-il ajouté hier soir dans l'émission BBC Newsnight. Le président du Parlement européen a également fustigé le manque de clarté de la position britannique sur le Brexit entre partisans d'une coupure nette avec Bruxelles et ceux qui veulent une période de transition.
Il est midi 24.
Sport.
Le FC Bâle veut bonifier sa victoire probante 5-0 contre le Benfica Lisbonne en Ligue des Champions il y a 3 semaines. Les footballeurs rennais ont l'occasion ce soir. Ils se déplacent au CSKA Moscou pour la 3e journée de la phase de groupe. Bâle est 2e avec le même nombre de points que les Russes au classement. Et les deux clubs vont s'affronter 2 fois en l'espace de 15 jours. Une double confrontation cruciale en vue d'une éventuelle qualification selon le latéral du FCB, Michael Lang.
C'est vrai que ces deux matchs contre Moscou commencent déjà à être décisifs. Ce le sera aussi pour nous, car nous avons gagné contre Benfica. Du coup, on a une vraie opportunité de bien figurer dans ce groupe. Mais pour cela, nous devons absolument prendre des points à Moscou. Ce sera notre grand objectif ce mercredi. Mais oui, je crois que ce sera décisif, être consistant ici, mais aussi à la maison, à Bâle, lors du prochain match. Et après ces deux matchs, on saura si on a une chance de se qualifier ou pas.
Et pour ce match crucial, la bataille s'annonce aussi tactique. Les joueurs ballois espèrent reproduire ce qui avait si bien marché contre le Benfica Lisbonne il y a 3 semaines. Notre envoyé spécial à Moscou, Jérémy Pignard.
Laisser le ballon à l'adversaire et surgir rapidement pour le surprendre. La recette avait permis au FCB d'étrier les Portugais 5-0. Et pour le latéral Michael Lang, ce sera encore la clé du succès.
Ce sera primordial d'être bien défensivement, puis, comme contre Benfica, de jouer les contre-attaques. Ce qui est important, c'est que nous avons des qualités dans ce domaine avec plusieurs joueurs qui vont vite devant.
Mais Moscou est prévenu et sait que la vitesse d'un Dimitri Oberlin peut faire des ravages. L'entraîneur rennais Raphaël Vicky promet d'ailleurs un match différent que face au Benfica.
Benfica, c'est une équipe qui voulait tout le temps le ballon. ZSK Moscou peut avoir le ballon parce qu'ils ont des très très bons joueurs aussi au niveau offensif. Mais ils étaient les deux derniers matchs en Champions League assez défensifs. Il faut voir comment ils viennent contre nous.
Il faudra donc savoir s'adapter, mais surtout être patient pour le milieu de terrain, Kevin Bua.
On est conscient de nos qualités. Même si on n'arrive pas à marquer au début, il faut garder confiance en nous. Et puis, ouais, je pense que la patience, ça va être un mot-clé.
Ball peut aussi miser sur son regain de forme du moment, alors que Moscou reste sur une seule victoire sur ses 5 derniers matchs.
Coup d'envoi de ce match entre le CSKA Moscou et le FC Ball ce soir à 20h45. L'autre rencontre du groupe mettra aux prises le Benfica à Manchester United. Enfin, une procédure ordinaire a été ouverte contre Mathias Yogi, joueur du HC Bienne. En cause, une possible charge contre la tête ou possible charge avec la crosse contre Yannick Rageb du Fribourg-Gotteron. C'était à la 57e minute du match de championnat de National League hier soir.
Et le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h. D'ici là, de la musique et de la bonne dans Décibel. Et du côté du ciel, ça va pas mal non plus. Hein. Aujourd'hui, nous avons encore droit à un temps bien ensoleillé sur toute région. Les températures sont toujours encore douces, avec 20 degrés au maximum, que ce soit sur les plaines ou dans les hauteurs. Pour l'heure, les thermomètres affichent 14 degrés à La Neuville, à Bienne et à Tavannes, 15 degrés à Tramelan et à Delémont, 16 degrés à Saint-Imier et 12 degrés du côté de Moutiers. Demain, même temps environ, oui, ensoleillé malgré quelques passages nuageux de moyenne et haute altitude en tout début de journée. Quant au thermomètre, ils ne dépasseront pas les 19 degrés. Vendredi, on reprend les mêmes et on recommence. C'est toujours encore un temps ensoleillé qui nous accompagnera dans la région. Mais les températures seront un peu plus fraîches avec 17 degrés au meilleur de la journée.
Le conseil